On va aller rejoindre notre collaborateur vedette de 7h30, Marty Thériault, qui est avec nous. Comment ça va, Martin?
Ça va bien les gars, vous autres?
Ben oui, ça va bien, Martin. On a eu un peu d'actualité dans les dernières heures, c'est-à-dire hier dans la Ligue nationale. Alors, ça nous permet ce matin de sortir un peu là, des sujets intemporels qu'on avait prévu faire ensemble, puisque l'actualité s'y prête. Et on va commencer avec un sujet au niveau du Canadien de Montréal. Les amateurs qui espéraient voir Bogdan Konyushkov l'an prochain avec le Canadien de Montréal devront prendre leur mal en patience. Il a prolongé d'un an son entente en Russie. Il avait déjà un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-26, mais maintenant ça va jusqu'en 2027 pour ce défenseur-là.
Ouais, c'est important de regarder ça un petit peu, Jasmin. Donc, pourquoi on a pris cette décision-là? Faut se mettre un peu à la place de Konyushkov. Moi, de la façon que je le vois, c'est que vraiment que c'est comme si à partir de 2026, est-ce qu'il va se tailler une place dans la LNH ou pas? Et j'ai comme l'impression que vu qu'il va peut-être encore un peu besoin de temps de développement, d'être en mesure de mieux se préparer à la LNH. Et là, par la suite, ben, c'est le côté salarial qui entre un petit peu. Il faut comprendre que Konyushkov, bon, présentement, a 22 ans, aura 23 ans au mois de décembre. Et ça fait en sorte que s'il signe un contrat, s'il avait signé un contrat, disons, en 2026, donc ça aurait été son année de 23 ans et tout ça, pour signer un premier contrat professionnel, ton contrat d'entrée, ça fait en sorte qu'un joueur de 22 ou de 23 ans, t'es obligé de signer un contrat de 2 ans. Donc, c'est un petit peu plus long. Et sur le contrat d'entrée, ça fait en sorte que lorsque t'es dans la Ligue américaine, tu peux pas toucher plus que 112 000 $. Et donc, à quelque part, au niveau monétaire, bon, il y a cet élément-là. Du côté de la KHL, il faut se le dire, là, Konyushkov, c'est quand même un joueur important.
Ça va être plus que 112 000 $.
Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, Konyushkov, lui, ce qui risque de toucher, on a vu des montants, ça risque d'avoisiner les 300 000 $. Donc, s'il n'a pas la certitude de jouer dans la LNH, d'avoir le gros contrat à un minimum de 775 000 $, ben, disons que pour lui, c'est pas mal plus intéressant de demeurer dans la KHL, d'avoir du temps de jeu, premièrement, de qualité, d'être en mesure de se développer quand même. Donc, d'aller chercher l'année supplémentaire de contrat qui se termine finalement en 2027, là, on se retrouve en 2027, c'est 24 ans. Et là, il peut toucher un contrat d'un an. Tu sais, supposons qu'il s'amène en 2027 avec un contrat immédiatement à la fin de la saison, par exemple, comme Ivan Demidov l'a fait, ben, il pourrait carrément brûler son année de contrat, re-signer un autre contrat. Et là, ben, par la suite, ça devient pas mal plus, premièrement, payant. Mm-hmm. Puis il va peut-être, deuxièmement, être un peu plus prêt pour la LNH à quelque part aussi, lorsqu'il va avoir 24 ans, justement, en 2027.
On est encore loin de ce scénario-là. Konyushkov, un peu pour les amateurs, Martin, tu peux le mettre en contexte. C'est un espoir qu'on connaît très peu. Je sais que toi, de par l'affection que tu portes pour les espoirs, tu l'as regardé en Russie, mais les amateurs ne l'ont à peu près jamais vu. Il est venu à Brossard au début du mois de juillet et j'ai eu la chance de faire ce match-là avec RDS, le match du camp de développement. C'est la première fois où il veut en Amérique vraiment et porter un chandail du Canadien lors du mini-match qu'on a fait. Écoutez, c'était un mini-match là, un jeudi matin à midi. Il n'était pas ressorti à outrance non plus, mais je vais me garder une petite gêne avant de porter une observation sur un défenseur qu'on a vu dans un contexte d'un match à 4 contre 4 un jeudi matin au mois de juillet. Pourquoi ce gars-là est à ce point-là attendu peut-être par des amateurs du Canadien?
Ben, je pense que c'est pas nécessairement compliqué. Jasmin, il a été repêché alors que c'est un élément important dans la KHL. C'est quelqu'un qui cognait à la porte, disons, comme un élément du top 4 avec le Torpedo Nijni Novgorod, avec un excellent entraîneur-chef, Igor Larionov. Et là, ben, finalement, la saison suivante, s'est retrouvé avec sinon le meilleur temps de jeu en moyenne dans toute la KHL au complet. Et honnêtement, sa progression avait été incroyable. Là. C'est quelqu'un, moi, je me souviens, son année de repêchage, qui avait de la difficulté parfois au niveau de son accélération, qui avait parfois de la difficulté un petit peu dans les bagarres un contre un. Il s'était beaucoup amélioré. Il avait trouvé une façon d'amener du... tu sais, il était très, très calme lorsqu'on appliquait de la pression sur lui. Il était capable de bien rouler les mises en échec. Il était capable de bien transporter la rondelle et tout ça. Un bon chaos, justement, en attaque et tout ça, capable de bien bouger la rondelle. C'est quelqu'un qui est excellent, justement, au niveau mobilité. Moi, ce que j'ai moins aimé de Konyushkov, et c'est là que... je pense qu'on se donne du temps. Faut pas être inquiet non plus. Là, les Canadiens ont les droits de Konyushkov jusqu'en 2030 parce que, je le mets entre guillemets, on a les droits indéfiniment sur le joueur, mais dans le fond, ça se rend jusqu'à l'année de 27 ans du joueur.
L'année où il deviendrait joueur autonome sans compensation.
Exact. Et donc, c'est pas trop inquiétant. On a jusqu'en 2030. Sur ce niveau-là, c'est pas inquiétant. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement eu beaucoup de progression dans son jeu l'an dernier, Konnichiwa. J'ai trouvé que soudainement, défensivement, et on le veut un peu à Brossard, c'était plus inquiétant un petit peu. Aussitôt que la pression arrivait rapidement, il se débarrassait de la rondelle comme une patate chaude. Il y avait beaucoup de revirements et tout ça. Par contre, il y a des raisons de contexte à ajouter qui peuvent avoir et compliquer ça. On a ajouté Slava Voinov, l'ancien de la LNH, qui a fait en sorte que ça a réduit son temps de jeu, qui a peut-être eu au moins d'occasion de s'illustrer offensivement. Donc, on verra bien l'an prochain. Premièrement, Larionov est maintenant du côté du Scott Saint-Pétersbourg. On change d'entraîneur-chef. Donc, là, disons que c'est une année qui est assez importante. On veut voir une progression. On veut voir qu'il est en mesure de vraiment dominer non seulement défensivement en possession de rondelles, mais d'amener un petit peu de points, là. Donc, je pense que c'est là qu'on en a un peu avec Konnichiwa, là.
Et il y a évidemment, je vois les amateurs aussi qui se disent, bon, ça devient loin un peu pour Konnichiwa. Le parallèle, tout le monde l'a fait depuis hier. Je suis pas le premier à le faire, là. On en a parlé tantôt, mais c'est Alexei Yemlin qui est arrivé dans la Ligue nationale à 26 ans et qui a quand même eu une carrière intéressante dans la Ligue nationale. Alors même si ça devait arriver seulement à 24 ans, par exemple, pour Konnichiwa, reste encore beaucoup de temps pour lui. On verra, comme on dit, et c'est dans la catégorie des projets.
Ouais, absolument. Puis, tu sais, il faut pas se le cacher non plus. Là, c'est un choix de quatrième tour en 2023. Je veux dire, si ça fonctionne pas avec Bogdan Konnichiwa, c'est pas la fin du monde non plus. Là.
Exact. On n'a pas investi un choix de première ronde, cinquième au total, comme par exemple les Coyotes et le Mammoth de l'Outa a fait dans les dernières années avec des Daniel Boot et des Dimitri Simachev et ce genre de joueurs russes-là. Là.
Ouais, exactement. Ou même, tu pourrais dire, et je crois énormément en David Reinbacher, mais tu sais, si lui, ça fonctionne moins, là, c'est plus compliqué un peu. Puis de toute façon, la banque d'espoir des Canadiens, tu sais, le noyau commence à bien se porter, là. Mais tu sais, c'est simplement un boni d'avoir un gars comme ça, qui soudainement perce et se taille une place au sein de ton top 6. Donc, c'est ça. Je le répète, on verra bien. Puis l'avantage, je le répète, avec les joueurs russes, c'est que tu as les droits sur les joueurs jusqu'à leur année de 27 ans. Donc, ça donne du temps pour les Canadiens.
Là, Marty, il y a quand même une tendance avec la NCAA, la Ligue canadienne. On le sait qu'il y a des joueurs qui sont en train de prendre la direction des États-Unis pour poursuivre leur carrière afin d'arriver prêt dans la Ligue nationale. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On a vu dans ton plan que Donald Trump pourrait se mêler de ça. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
Ouais, c'est assez intéressant. Premièrement, je m'excuse à côté de Jasmin. J'avais dit que je parlerais pas de politique avant hier.
j'ai
dérogé un peu à cette règle-là.
Ouais, j'ai pas dit le mot Donald Trump mercredi et jeudi. Là, ça fait deux fois depuis le début de l'émission qu'on le mentionne.
Ouais, écoute, mais c'est quand même intéressant ce dossier-là parce que hier, dans le fond, Donald Trump a déposé un décret présidentiel. Là, je m'écarte un peu, mais tu sais, Donald Trump, depuis le début de sa présidence, a fait ça énormément. Ce que ça fait en sorte, c'est que le président décide carrément de ce qu'il peut faire, et à moins qu'il y ait quelque chose d'anticonstitutionnel, ça va arriver. Et là, il a déposé un décret hier, Donald Trump, qui s'intitule, là, ça s'invente pas, là, le président Donald Trump sauve le sport universitaire. Mais plus concrètement, Donald Trump, ce qu'il essaie de faire, c'est d'avoir un peu une sorte de parité, de protéger les petits sports contre la flambée des prix qu'on peut voir au niveau surtout au niveau du football et du basketball. On juge que que ça menace peut-être les petits programmes avec moins lucratifs, tu sais, des programmes comme le water polo, les programmes comme l'aviron, des trucs comme ça. Mais où je m'en vais avec ça? C'est que dans les mesures que Donald Trump veut appliquer, c'est peut-être mettre fin au bon temps donné par des tierces parties pour des joueurs, un peu une façon détournée d'amener des salaires, et ça amène au fameux NIL, donc le fameux dossier où tu peux pour un joueur prendre ton image de marque et faire de l'argent avec ça, que ce soit avec des contrats de commandite, que ce soit pour des apparitions publiques, tu peux toucher énormément d'argent là-dedans, et c'est là que c'est intéressant. Là, lui veut bannir cet élément-là d'NIL. Là, on revient avec Gavin McKenna qui a touché, probablement, les rumeurs parlent de 750 000 $ pour se joindre à Penn State. Ça voudrait dire que si Donald Trump, et là, il a chargé le cabinet de trouver des solutions à ce niveau-là dans les 30 prochains jours. Donc, et c'est, j'ai regardé un peu, c'est très, très flou, là. Tu sais, il dit aussi, je veux, Si le salaire est à une juste valeur, on n'osera pas se mêler de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, je le sais pas. C'est pas précisé. Mais supposons qu'on se mêle le nez là-dedans et qu'on tente de baisser un petit peu les prix complètement dérisoires et pas exagérés, mais disons, les guerres de prix. Ben, c'est là qu'on pourrait voir peut-être des gars comme McKenna, comme bon, Porter Martin, les gros noms, de voir les prix peut-être baisser un peu. Et là, si ça diminue, mais là, disons que pour les équipes de la Ligue canadienne de hockey, ça devient peut-être un peu plus facile de rivaliser et là de vendre finalement ce qu'on vend tout le temps, la meilleure ligue de développement au monde, le fait qu'on veut bien développer, qu'on a un système peut-être un peu plus adéquat pour préparer à la LNH. Les joueurs canadiens demeurent chez eux également. Donc, ça va être... Je suis pas en train de dire que ça va arriver, mais c'est intéressant à surveiller. Là.
Moi, un vendredi matin où j'entends Martin dire décret présidentiel, anticonstitutionnel, water polo, moi je me dis que ça, c'est ça la définition d'un beau vendredi
c'est
matin.
C'est pas pire, c'est pas pire.
Écoute, on est capable d'aller un peu partout avec le hockey, puis là, c'est ça de voir Donald Trump qui se mêle un peu de ça. C'était pas sur ma carte de bingo d'hier matin, disons.
Ouais, on va mettre ça dans la filière de on garde ça à l'œil, mais permets-moi de dire qu'on en reparlera le jour où ce sera un peu plus concret tout ça. J'aimerais ça t'amener en terminant sur quelque chose de concret. Une signature de contrat qu'il y a eu dans les dernières heures. Et quand je dis dans les dernières heures, c'est vers minuit, je pense que ça a été annoncé. Le Jackson Blake avec les Hurricanes de la Caroline signe un contrat de 8 ans. De voir Jackson Blake rester en Caroline, ça ne m'étonne pas du tout. Bon jeune joueur de 21 ans. Est-ce que ça t'a surpris de voir un 8 ans, par exemple, être signé directement par ce jeune-là?
Sur le coup, c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, Jackson Blake, oui, il a eu une saison d'au-delà de 30 points, mais, tu sais, il y a simplement une saison d'aller lui donner un contrat de 5 600 000 $ immédiatement jusqu'en 2034 et tout ça. Ça demeure impressionnant. Par contre, je te dirais que c'est intéressant du côté d'Eric Toski, le directeur général des Hurricanes, pour deux raisons. Premièrement, et là, je reviens au contrat de Seth Jarvis qui l'a signé il y a déjà quelques années. Tu sais, les fameux paiements différés, le fameux principe qu'on va prendre un peu d'argent, qu'on va le verser à la fin de l'entente, et ça permet de diminuer un petit peu l'impact sur la masse salariale par année. Donc, le contrat, en réalité, c'est pas nécessairement 5 625 000 $ par année que ça va compter sur la masse salariale. C'est quelque chose comme 5 100 000. Donc, on réduit ça d'environ 400 ou 500 000 $. Ce qui est intéressant, ben, c'est que premièrement, 8 ans, lorsque la nouvelle convention collective va commencer, ça va être illégal. Ça ne sera plus permis. Et les fameux paiements différés, ça a été interdit également. Donc, c'est peut-être l'un des derniers contrats qu'on va voir de cette façon-là. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je regarde comment Toulski a bâti sa formation. Écoute, c'est pas compliqué. Le noyau complet est sous contrat là, au moins jusqu'en 2030. T'sais, là, on a signé Nicolas Ehlers. Il est sous contrat jusqu'en 2031. Sébastien Aho, c'est jusqu'en 2032. Seth Jarvis, c'est jusqu'en 2032. Yevgeny Svechnikov, c'est peut-être...
On y est allé à long terme pour les Hurricanes.
Ben, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé... Voici notre noyau. Ça ne bouge pas, puis là, je m'entraîne pas là-dedans, mais il y a beaucoup de clauses de non-échange également chez les joueurs, là. Clairement, Eric Toski, lui, ce qu'il se dit, c'est « si voici mon noyau, on s'en va avec ça ». Moi, je peux peut-être douter, je trouve qu'on se menote un peu à certains niveaux, là. Surtout, tu sais, on parle souvent du fait que c'est pas une équipe très imposante, les Hurricanes, et je pense que ça peut les rattraper, ça fait en sorte qu'ils ont des insuccès en série. Mais il faut que tu le donnes. Eric Toski s'est dit « écoute, tout ce qu'on a fait dans les dernières années, ça n'a pas fonctionné. Aussi bien tenter quelque chose d'y aller à fond. J'ai l'appui de mon propriétaire dans tout ça. » Puis ben, c'est ce que tu vois en ce moment, là, vraiment, à l'exception de peut-être un Jesperi Kotkaniemi qu'on n'est pas trop sûr. Je dirais, là, tout le, tu sais, le noyau est vraiment en place du côté des Hurricanes. Et les joueurs sont pas chers non plus. Tu sais, tu regardes un Stan Coven qui va coûter 6 millions. Tu regardes un Seth Jarvis qui va toucher 7 400 000 $. Tu sais, Sébastien Aho est l'attaquant le mieux payé à 9 750 000 $. Ça donne un avantage à Toski pour avoir une formation là, avec beaucoup de profondeur, disons. Là.
Martin, j'ai une petite question pour toi rapidement en terminant aussi là, cette signature-là qui est arrivée pour Jackson Blake. Je suis curieux de t'entendre à quel point ça pourrait influencer aussi les discussions entre Marco Rossi et le Wild, sachant que bon, Rossi avait refusé là, une offre d'à peu près 25 millions qui était sur la table, un 5x5, et là de voir un gars comme Jackson Blake, un peu plus jeune, deux joueurs d'à peu près de petit format, signer ce contrat de 8 ans à au-dessus de 5,5 millions, à quel point tu penses que ça peut affecter les discussions dans le clan de Marco Rossi? Rossi?
Ben, c'est sûr qu'à quelque part, si je prends le clan de Rossi, ça donne un autre argument de dire, écoutez, voyez, je le rappelle, là, le Wild du Minnesota a fait une offre qui, moi, selon moi, est insultante, là, de 5 ans et de 5 millions de dollars par saison à Rossi l'hiver dernier. On se basait notamment sur les contrats, sur le contrat d'Anton Lundell du côté des Panthers de la Floride. Premièrement, ce contrat-là a été signé quand même il y a un petit peu plus tôt, alors que la flambée des salaires n'était pas arrivée encore. Puis, ben, de toute façon, Rossi l'a un peu dit, c'est, on n'est pas prêt à accepter ça du tout, on est un peu gêné. Donc, je pense que c'est simplement une autre raison de dire, ben écoute, t'as un attaquant qui a obtenu 30 points simplement, qui est simplement sa première année dans la LNH, qui joue au sein d'un troisième trio en Caroline, et je vais aller gagner moins d'argent que lui. C'est un peu ridicule, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça, étant donné que Blake, c'est un ailier. Ça, je pense qu'un petit attaquant qui joue à l'aile, c'est peut-être un peu moins pire, alors que Rossi, c'est un joueur de centre. Et je pense que c'est ce qui influence beaucoup la valeur à travers la Ligue nationale. De ce qu'on entend, c'est que Rossi n'a peut-être pas la meilleure cote, étant donné que les équipes ont des doutes, étant donné qu'il a joué sur le quatrième trio en série et tout ça. Donc, j'ai pas l'impression que ça va... donc, tu sais, d'un côté, dans le clan Rossi, tu peux très bien dire, écoutez, vous voyez que votre offre, c'est une farce. Mais de l'autre, je suis pas certain que ça va changer beaucoup de choses parce que le débat est un peu ailleurs dans ce cas-là.
Martin, merci beaucoup pour ces précisions. Toujours très intéressantes de t'entendre et très pertinentes. Je vais te souhaiter un bon week-end, puis on va te retrouver lors des deux prochaines semaines aussi, toujours dans le même créneau horaire à 7h30 lundi prochain. Merci d'être là tous les jours dans le Club du Matin.
Ça fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine, les gars.